Bien bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir ici à Caen pour cette deuxième édition des rencontres de la formation tout au long de la vie, avec comme thème général des journées principalement la question de l'apport du numérique au développement de la formation tout au long de la vie dans les établissements d'enseignement supérieur, et comme focus de cette journée du 22 novembre, la question des nouveaux métiers et nouvelles compétences. Alors, je vais tout de suite passer la parole au président de l'Université de Caen-Normandie qui va vous faire aussi un petit mot d'accueil. Suite à l'introduction donc, de Pierre Denise, Lamry Adoui, qui est président de la commune Normandie-Université, aurait dû être là, mais il est désolé. Il m'a fait savoir en dernière minute qu'il passerait peut-être dans la journée, mais que ce matin, il n'était pas disponible. Il va passer, d'accord. Et puis donc, après le mot d'accueil de Pierre, Patricia Arnaud représentera la DGSIP pour introduire également l'intérêt de ces journées par rapport à la stratégie de la DGSIP. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne journée.
Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans ce bel amphithéâtre pour ces deuxièmes rencontres de la formation tout au long de la vie, avec consacrée à l'apport du numérique. Alors, c'est à la fois un grand plaisir et je ne peux pas m'empêcher d'éprouver une certaine tristesse parce que ce thème était, je pense, particulièrement cher à Pierre Sineux, mon prédécesseur, qui a disparu de manière prématurée. Et je suis certain qu'il aurait été particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée. Alors, vous êtes ici dans un endroit assez emblématique de ce qu'est notre université, hein, non seulement parce que c'est un bel endroit, mais aussi parce qu'il est au cœur de l'université et qui porte le nom de Pierre Dor, le recteur, à qui l'on doit la reconstruction de l'université. Vous savez peut-être qu'elle a été complètement détruite lors des terribles combats de l'été 44 et qu'il était question de ne pas la reconstruire, qu'elle soit déplacée ni plus ni moins à Rouen et qu'on ne la reconstruise pas. Voilà, donc c'est grâce à la volonté de Pierre Dor que cette université a été reconstruite, a été même bien reconstruite, puisque maintenant elle est classée au monument historique. Et tout ici respire l'histoire et la culture. Alors notre université, c'est ce qu'on appelle une université moyenne, multidisciplinaire, avec secteur santé. On a à peu près 29 000 étudiants, 43 unités de recherche. C'est un lieu de culture également, comme je vous l'ai dit. Mais c'est également une université qui a su évoluer, qui a su prendre également le virage de la formation continue et de la formation tout au long de la vie. Nous avons d'ailleurs ici présente une vice-présidente aux transformations pédagogiques et au numérique, et ainsi que depuis le mois de septembre, une vice-présidente pour la formation continue. Alors, l'Université de Caen, lors du rapport IGA-UNR de juillet 2014, s'était identifiée comme la 13e université en termes de chiffre d'affaires pour la formation continue. Et l'été dernier, nous étions également classés dans les trois premières avec Nantes et Grenoble pour tout ce qui est formation à distance de la formation continue. Voilà. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la DGSIP nous a fait l'honneur de tenir cette deuxième rencontre ici. Voilà, donc, je remercie particulièrement la DGSIP, mais je remercie également Pierre Bust, hein, notre dynamique directeur du CEMU, hein, le Centre d'enseignement multimédia universitaire, d'avoir proposé la candidature de Caen et d'avoir su amener ces rencontres ici à Caen. Donc je le remercie particulièrement, mon établissement, ainsi que toute l'équipe du CEMU qui a été particulièrement mobilisée pour l'organisation de ces rencontres. Donc je vous souhaite une bonne journée, des travaux fructueux que nous suivrons avec la plus grande attention. Merci.
Bien, et bonjour à tous. D'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Marie-Françoise Crozier, chef de la MIPNES à la DGSIP, qui n'a pas pu donc nous rejoindre aujourd'hui et qui m'a demandé un peu au pied levé de la remplacer. Je vais le faire au mieux. Et surtout, je voudrais remercier les Canets, hein, si je ne me trompe pas, les Canets de m'accueillir à nouveau. Puisque j'étais déjà venue dans cette belle ville de Caen L'année dernière, on cherchait la date, mais je sais, c'était lundi de Pâques, le lendemain du lundi de Pâques, parce que j'avais eu un souci de SNCF. Et donc, où j'étais venue pour la journée approche par compétences et où j'avais déjà été très, très bien reçue. Donc, je vous en remercie. Et c'est donc bien agréable pour moi de me retrouver ici parmi vous. Bien, alors, donc je vais essayer de recontextualiser un petit peu tout ça, prendre pas trop de temps parce qu'on est déjà un peu en retard. Donc voilà, la société et l'économie d'aujourd'hui sont fondées donc, sur l'avancée des connaissances et le développement des technologies. Donc tout ça, ça implique les citoyens et des compétences. Et c'est bien la raison pour laquelle on parle beaucoup de compétences en ce moment. Ces compétences, qu'elles soient spécifiques, techniques, qu'elles soient transversales, mais aussi qu'elles soient managériales et surtout démocratiques aussi, surtout dans les périodes que vous connaissez, qu'on traverse en ce moment. Donc démocratiques, porteuses de valeurs, de compréhension critique, d'ouverture à l'altérité, de responsabilité, d'autonomie, etc., etc. Donc, ce sont des choses fondamentales maintenant à considérer. Ces compétences, eh bien, elles doivent s'acquérir à travers les programmes d'études que nous proposons à nos étudiants, à travers les activités qu'on leur propose, à travers nos pratiques pédagogiques, à travers les systèmes d'évaluation aussi que nous mettons en place et que nous utilisons, que ce soit dans le milieu formel et informel, toutes ces compétences doivent être valorisées, validées. Ça veut dire que de notre part, il faut vraiment considérer l'engagement des étudiants et le valoriser, mais aussi développer tout ce qui concerne la VAE. Et ça, j'espère que ce sera un sujet central dans vos discussions aujourd'hui. Et toutes ces compétences, eh bien, elles doivent nous aider. Le fait d'en prendre conscience et de travailler autour de ces compétences, ça doit nous aider à former des citoyens diplômés, donc engagés et tolérants. Ces compétences, eh bien, elles constituent un facteur décisif pour assurer un niveau de qualification supérieur dont dépend la maîtrise professionnelle. Donc les enjeux sont énormes et vous en êtes conscients puisque vous êtes là aujourd'hui parmi nous et ils définissent finalement une nouvelle mission pour l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur doit constituer maintenant, dorénavant, un centre de ressources pour toute la population et ce pour toute la vie. Et donc il n'y a plus de FI, comme je vous l'ai déjà dit, ni de FC, mais il y a bien la FTLV. Et c'est ce mot-là qu'on doit retrouver partout maintenant, cette expression de formation tout au long de la vie. Alors ainsi, l'université doit s'inscrire dans son territoire, bien sûr, vous le savez. Quand je dis université, je parle au sens large. Et les structures de l'université, les acteurs, les services, les formations doivent s'adapter, doivent garantir une grande flexibilité et doivent garantir également une véritable ouverture au monde du travail pour répondre aux attentes à la fois de la société et à ses besoins de qualification. Et tout cela doit se faire dans un contexte de transition numérique, donc de révolution numérique. Choisissez le mot qui vous convient le plus pour traduire ce que nous vivons actuellement sur le numérique. Et donc tout cela exige le développement de capacités et donc de formations centrées sur des savoirs, qu'ils soient techniques, autres ou managériaux, nouveaux, c'est-à-dire qu'on assiste à l'émergence de nouveaux métiers. Et nous ne savons pas quels sont ces nouveaux métiers exactement. Il y a de nouveaux métiers qui émergent dans les établissements, il y a de nouveaux métiers qui sont exigés par la société envers nos diplômés. Donc à nous de réfléchir et de construire tout ça. Donc tout ça conduit au développement de la FTLV. Et tout ça dans une cohérence de politique de site, coordonner les actions à l'échelle des regroupements universitaires en y associant donc les partenaires socio-économiques. Donc, il nous faut créer des liens d'interdépendance entre les collectivités, les entreprises et les universités, au sens large. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit aussi avoir tout ça à l'esprit aujourd'hui et travailler là-dessus. Le rôle du ministère, eh bien, c'est d'avoir une vision globale, une vision transversale pour diffuser les bonnes pratiques et, le cas échéant, faire évoluer la réglementation. Ce n'est pas à exclure. La FTLV, c'est donc un sujet majeur au cœur des préoccupations de ce ministère. C'est une nécessité stratégique qui est reconnue à la fois au niveau international, européen, national Et c'est la raison pour laquelle, en France, il y a par exemple la stratégie nationale de l'enseignement supérieur, la STRANES, qui en fait état. Le rapport Germiné, bien sûr, paru en novembre 2015, mais également le référentiel du CNUM, du Conseil national du numérique, qui a fait part donc de ses préconisations en mai 2016. Donc le ministère a fait le choix de soutenir le développement de la FTLV, à la fois par un accompagnement des établissements, mais aussi par une incitation à multiplier les projets. Ainsi, deux appels, deux AMI, donc appels à manifestation d'intérêt pour la FTLV, ont déjà été lancés. Les premières rencontres de la FTLV, de l'enseignement supérieur, ont eu lieu l'an dernier. Probablement que la majorité d'entre vous y assistez. Donc elles ont eu lieu à la DGZIP, organisées par la MIPNES et d'autres services de la DGZIP. Et ça a eu lieu le 3 février 2016 à Paris. Le ministère a souhaité qu'il y ait une alternance Paris-Province et donc a confié l'organisation de ces journées à Pierre Bust, donc, qui vous a été présenté tout à l'heure par Monsieur le Président de l'Université de Caen. Et je remercie Pierre au nom de la DGZIP pour son dévouement à l'organisation de cette journée. Mais bien sûr, j'y associe pleinement le CEMU, donc tous ses collègues de Caen, du service TIS et formation à distance, qui ont été très impliqués aux côtés de la DGZIP dans cette organisation. Et sans oublier, bien sûr, le département du lien formation-emploi que dirige Christine Brugnot. Et Christine même s'est beaucoup investie aussi, ainsi qu'Anne Aubert, qui est chargée de mission FTLV à la sous-direction des formations et de l'insertion professionnelle, et bien sûr les collègues de la MIPNES qui se sont aussi également investis dans cette organisation. Je tiens à souligner la force du réseau impliqué dans cette organisation également, et sans eux, on ne peut pas avancer beaucoup. Donc, on les remercie vraiment. Et puis, donc, je vais citer en espérant n'oublier personne. Et si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Donc, je vais citer l'ANSIA, je vais citer le réseau des VPCFVU, la FIED. Je ne prends pas le temps de développer tous ces sigles, je pense que vous les connaissez. La FCU, le réseau des ESP, bien sûr, et le réseau des services universitaires de pédagogie. Et donc un grand merci à tous pour l'organisation de ces manifestations qui, j'espère, vont se multiplier dans le temps. Alors, juste quelques mots pour repositionner un peu la MIPNES et le rôle de la MIPNES. Donc la MIPNES, c'est la mission de la pédagogie et du numérique pour l'enseignement supérieur. Elle assure le soutien transversal de la transformation pédagogique et numérique de l'enseignement supérieur. C'est sa mission. Elle travaille avec les réseaux, les partenaires et bien sûr les services et les départements liés à l'évolution de l'enseignement supérieur, qu'ils soient du ministère ou dans les établissements. Et naturellement, la formation tout au long de la vie est au cœur de ses préoccupations. La feuille de route s'articule sur 4 axes stratégiques qui sont marqués sous des angles complémentaires. Le premier axe, c'est accompagner la politique et la stratégie des gouvernances. Donc, on travaille autour de l'accréditation et sur la contractualisation. On travaille aussi à la professionnalisation des acteurs de l'enseignement supérieur. Le deuxième axe concerne l'accompagnement de la transformation et du déploiement des pratiques pédagogiques et numériques. C'est dans ce cadre-là qu'on travaille au développement de l'approche par compétences et d'une généralisation de l'approche par compétences qui passe par l'approche programme. Ainsi, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt en 2016. Un autre est en préparation pour 2017. Nous avons le dossier du portfolio qui prend une place de plus en plus importante, vous le comprendrez. Le travail avec les réseaux, comme par exemple le réseau national de l'approche programme, le RENAPSUP, qui a émergé en juin dernier et qui regroupe 138 personnes avec 45 ou 46 établissements d'enseignement supérieur qui dépendent de différents ministères et pas seulement du nôtre. Donc on ne peut qu'en s'en réjouir. Nous travaillons aussi sur les compétences numériques et en particulier sur l'émergence de la plateforme PIX dont vous avez entendu parler récemment par notre ministre. Et nous travaillons aussi à la production des ressources numériques et à l'accompagnement de leurs usages avec tous les partenaires concernés. Le troisième axe concerne l'accompagnement de la mise en équation des lieux d'apprentissage et des pratiques. Donc ça concerne les infrastructures, le système d'information, les différents services, les outils numériques. Donc comment reconfigurer des espaces pour qu'ils favorisent les conditions de réussite de nos étudiants? Comment développer un environnement global d'apprentissage dématérialisé, etc., etc. Donc là aussi beaucoup de dossiers. Et le quatrième axe, c'est favoriser, diffuser, valoriser les initiatives à visée transformante. Donc comment est-ce qu'on peut transformer les pratiques, les dispositifs et comment surtout on peut les transférer à d'autres établissements? Donc on travaille sur une base de données ouverte et sur le portail de SUP numérique qui vont permettre... J'ai dû appuyer sur... on est d'accord, j'en suis aperçue, excusez-moi. Et donc comment on peut travailler sur ces outils pour mettre à disposition de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, des informations, des ressources, des idées, etc., etc. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez faire des propositions pour mettre SUP numérique. Et je crois que Anne Rigopoulou, qui s'occupe de ce site, est dans la salle. Donc, c'est l'occasion ou jamais. Bien, donc, les objectifs de cette journée, on est d'accord, c'est bien rassembler les responsables de formation, les réseaux d'acteurs de la FTLV et des stratégies numériques. Alors, pour échanger... pour partager, pour construire ensemble autour des enjeux et analyser les opportunités du numérique dans ce contexte-là. Donc flexibilité, c'est un mot d'ordre. Conditions de la réussite, comment est-ce qu'on peut construire ces conditions de la réussite pour les différents publics d'apprenants qui sont concernés par la FTLV. Et nous d'ailleurs au premier chef, hein, vous savez à quel point la formation continue pour les enseignants-chercheurs était développée jusqu'à ces dernières années. Bon, ça y est, ça commence à se corriger, mais il faut aller encore bien au-delà. Et comment alterner des périodes de formation et d'activités professionnelles, comment valoriser, comment développer la VAE, etc., etc. En gros, on aura gagné quand on ne parlera plus de tout ça. Ça veut dire qu'on aura compris que ce sera rentré dans les mœurs et dans notre culture. Donc, nous devons nous adapter à toutes ces exigences, à ces attentes, donc au public et pas l'inverse. Ce n'est pas au public de s'adapter à nous, mais c'est à nous à nous adapter aux attentes de la société. Donc, soyons efficaces, actifs, productifs. Et je vous souhaite à tous d'excellents travaux. Je vous remercie.